Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des intelligences artificielles génératives. Elles sont partout, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance aveuglément? Surtout quand on sort un peu des clous.
C'est une excellente question. Et justement, une recherche assez récente, menée par Aswal et Jaiswal, soulève des points, disons, préoccupants.
Ah oui, de quoi s'agit-il?
Ils ont mis en lumière une technique assez surprenante pour contourner les barrières de sécurité des IA, que ce soit pour générer du texte ou des images.
Contourner les sécurités, mais comment? Avec des outils très complexes?
Eh bien, non, justement, c'est ça qui est frappant. La méthode utilise simplement le langage. Enfin, une manière spécifique de l'utiliser.
Le langage, c'est-à-dire?
Alors, l'étude prend l'exemple de ce qu'on appelle l'English, un mélange d'hindi et d'anglais. L'idée, c'est de mélanger les langues dans une même instruction et d'ajouter ce qu'ils nomment des perturbations phonétiques.
Des perturbations phonétiques. Qu'est-ce que c'est que ça?
En gros, ce sont des fautes d'orthographe volontaires. On écrit un mot de façon incorrecte, mais de manière à ce que la prononciation reste la même.
Juste des fautes d'orthographe. Ça semble presque trop simple pour tromper une IA. Ça mérite qu'on s'y penche de plus près. Voyons voir comment ça marche et surtout ce que ça implique pour la sécurité de ces outils qu'on utilise de plus en plus.
Tout à fait. Il faut savoir que les IA sont normalement entraînées pour refuser les demandes, disons, problématiques, dangereuses ou non éthiques. Le souci, c'est que les tests de sécurité, ce qu'on appelle le red teaming...
Ah oui, quand on simule des attaques pour voir où sont les failles.
Exactement. Bah, ces tests sont très souvent faits en anglais standard. Un anglais assez propre, si on veut.
D'accord.
Or, dans la réalité, beaucoup de gens mélangent les langues, le fameux code mixing, ou utilisent des orthographes un peu phonétiques, comme dans les SMS, quoi. Surtout les non-anglophones natifs. Et l'étude cible précisément ce cas de figure avec l'English.
Je vois. Alors, concrètement, comment ils s'y prennent pour l'attaque?
C'est une combinaison. D'abord, le code mixing, donc mélanger anglais et hindi dans le prompt, l'instruction donnée à l'IA. Et ensuite, ces fameuses perturbations phonétiques sur les mots sensibles.
Les mots sensibles, comme...
Comme haine, discrimination, attaque. Des mots que l'IA est censée bloquer. On les réécrit phonétiquement.
Ah, comme leur exemple où DDoS attaque devient quelque chose comme DDoS attaque en English.
C'est ça. Ou hate speech qui devient hate vacha. Ou encore discrimination qui se transforme en discrimination ou même en utilisant l'équivalent hindi, bedvav, mais écrit phonétiquement.
D'accord. Et une fois qu'on a ces prompts modifiés, on les soumet à l'IA pour voir si elle génère le contenu interdit.
Voilà. On lui demande de créer du texte ou une image à partir de ça.
Tombe dans le panneau?
Pour le texte, les résultats sont assez spectaculaires. L'approche contourne les sécurités avec un taux de succès moyen vraiment très élevé. Ça peut monter jusqu'à 99% en moyenne sur certains modèles testés.
99%, c'est énorme. Ça veut dire que même les gros modèles, genre ChatGPT-4, Omni, Llama 3, ils sont vulnérables à ça.
Oui, ils le sont. Surtout si on combine cette méthode avec d'autres techniques de jailbreak.
Ces astuces pour faire sauter les verrous de l'IA.
Exactement. D'ailleurs, les chercheurs proposent leur propre technique, qu'ils appellent sandbox. Et chose intéressante, les modèles Gemma et Mistral se sont montrés très très sensibles, même parfois sans avoir besoin de techniques de jailbreak supplémentaires.
Incroyable. Et pour les images, c'est la même histoire?
Ça marche aussi, oui. Pas aussi haut que 99%, mais quand même environ 78% de succès en moyenne sur ChatGPT-4o Mimi en utilisant une autre méthode qu'ils ont développée, VisGPT.
78%, c'est déjà beaucoup. Et les images générées, elles correspondent à la demande initiale, même si elle est problématique.
Tout à fait. Elles sont pertinentes à 95% par rapport aux prompts modifiés. Mais voilà, le contenu est celui qu'on voulait éviter. L'étude cite des exemples de haine religieuse, des scènes très violentes, type gore, ou même de l'automutilation. C'est glaçant.
Oui, et il note aussi des nuances intéressantes. Par exemple, il est plus facile de générer du gore que, disons, de la discrimination de caste, qui est plus spécifique culturellement. Et autre point troublant, parfois, les modèles génèrent des images haineuses ciblant un groupe précis, comme les musulmans ou les asiatiques, même si le prompt ne le mentionnait pas explicitement. Ça suggère des biais sous-jacents dans le modèle lui-même. D'accord, ça, c'est vraiment un autre problème. Mais revenons à la technique elle-même. Pourquoi ça marche au fond? Comment une simple faute d'orthographe ou un mélange de langues peut déjouer ces systèmes?
Alors, l'étude a creusé ça avec une méthode qui s'appelle Integrated Gradients. En gros, ça permet de voir quel mot ou partie de mot allume l'IA, déclenche une réaction.
OK.
Normalement, si on écrit « hate » ou « discrimination » correctement, l'IA reconnaît ces mots comme « sensibles » et hop, les filtres de sécurité s'activent.
Logique.
Mais quand on utilise l'orthographe phonétique comme « et » ou « bedbav », l'IA ne découpe plus le mot de la même façon. Elle le segmente en plus petits morceaux, ce qu'on appelle des « tokens ».
Des tokens ?
Oui. Par exemple, « et » pourrait devenir les tokens « a » plus « e » et « bedbav » deviendrait « b » plus « ed » plus « b » plus « a » plus « av ». Et ces petits bouts de mots, pris séparément, ils ne sont plus reconnus comme dangereux par les filtres.
Ah d'accord, je vois. C'est la tokenisation, ce découpage en morceaux, qui est la clé. L'IA ne voit plus le mot interdit en entier, juste des fragments qui lui semblent inoffensifs.
C'est exactement ça. La vulnérabilité vient de là. Et ça met en évidence une faiblesse assez fondamentale. Les sécurités actuelles ont du mal avec la diversité réelle des usages linguistiques. Le multilinguisme, les fautes courantes, les variations. Ce qui laisse penser que la sécurité des IA est peut-être un peu trop académique.
Trop centré sur un anglais parfait et pas assez sur la façon dont les gens parlent et écrivent vraiment à travers le monde.
On peut le dire comme ça, oui. C'est un vrai défi si on veut que ces IA soient sûres pour tout le monde, partout. Et la facilité avec laquelle on peut contourner les garde-fous, surtout pour les images qui ont un impact visuel fort, c'est inquiétant pour la diffusion de contenus nocifs. Clairement, se baser sur des listes d'attaques connues, ça ne suffit pas. Donc, pour résumer rapidement, mélanger les langues et jouer sur l'orthographe phonétique, c'est une faille bien réelle pour les IA actuelles, texte comme image. Et la raison principale, c'est cette histoire de tokenisation, la façon dont l'IA découpe et interprète les mots. Voilà. Le message principal de cette étude, c'est vraiment un appel à l'action. Il est urgent d'adapter la sécurité des IA à la complexité linguistique mondiale. Il faut sortir de la bulle de l'anglais standard et des scénarios d'attaque trop prévisibles.
Et ça nous laisse avec une question plus large pour la suite. Si de simples jeux sur l'orthographe peuvent berner des systèmes aussi sophistiqués, comment peut-on espérer construire des IA qui comprennent vraiment l'intention derrière les mots, et pas seulement des mots-clés interdits ? Quelles sont les prochaines étapes pour une IA qui saisisse vraiment les nuances, le contexte, de façon plus profonde et robuste ?